Et deux mesures piano, comme écho. Encore une fois.
J'ai plus appris à la chanson pour écrire de romans que le contraire. Et je crois que j'ai gardé quand même cette manie en écrivant les romans pour trouver le mot chantant juste.
Et trouver les mots justes, chanter et publier, il sera question de tout cela ce soir dans Continent Musique avec Yves Simon, l'écrivain et chanteur que vous venez d'entendre et qui nous a accordé un entretien chez lui en amont de la sortie d'un album de reprise par la jeune génération. Voilà, donc avant-première ou bonne page, vous entendrez ça en deuxième partie d'émission. Mais avec nous dans les studios de France Culture, Marie Modiano, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Peter Von Peul. Bonsoir à vous aussi.
Bonsoir.
Marie Modiano, un temps comédienne, mais surtout chanteuse et romancière. C'est vrai que vous vouliez être trapéziste avant ou c'est juste un rêve?
Trapéziste et chauffeur de taxi.
D'accord, mais vous avez un peu tenté ou pas du tout?
J'ai essayé, mais j'étais pas très douée.
Surtout, t'as pas ton permis de conduire.
On en apprendra ce soir. Vous publiez, Marie Modiano, avec Peter Von Peul, Pauvre Chanson. C'est votre cinquième album, mais c'est le premier chanté en français et qui paraît en même temps que ce recueil de poésie, Pauvre Chanson et autres poèmes, qui est édité chez l'Arbalète Gallimard. Pauvre Chanson, un disque de bel ouvrage qui commence par une pulsion sourde, des cordes, des vents et ces mots « guérir ma colère ». En français, Marie Modiano, on était en train de parler pendant la musique. Vous m'expliquiez que ce premier morceau, vous saviez que c'était par ça qu'il fallait que commence l'album. Chanter en français, ça a changé votre chant, la façon de placer la voix, par exemple, Marie Modiano?
Oui, je crois que quand on chante en français, c'est pour ça que beaucoup de gens choisissent l'anglais en premier. Moi, je pense que le français est malgré tout une langue assez difficile à faire sonner en chanson. Par rapport à l'italien ou l'anglais. Et donc, j'ai l'impression qu'il faut trouver avant tout un rythme, une diction, une manière de dire les mots. Et donc, forcément, on chante d'une autre manière. Et quand c'est sa langue maternelle, on chante encore plus d'une autre manière puisque chaque mot a un poids particulier.
Alors, côté poids ou côté texte, je voudrais revenir sur ce qu'on vient d'entendre. Guérir sa colère, ça passe par la chanson. De quelle colère il faut se débarrasser, Marie Modiano?
Je pense qu'il vaut mieux guérir sa colère en chantant et en essayant de créer des choses qu'en étant agressif avec
les autres. Oui, ou de retourner sa colère
contre
soi. Et
donc, moi, c'est peut-être une manière de... Voilà, s'il y a des choses qui me rendent en colère, comme tout le monde, surtout à l'époque actuelle, c'est une manière, par la musique, une sorte d'échappatoire à tout ça.
Allez, je vais me permettre d'insister.
Allez-y.
Un petit peu, non, mais s'il y a une colère que peut-être la chanson vous a permis de résoudre, vous avez une idée de, Donc quoi, ça a pu vous aider quand on écrit un morceau qui s'appelle « Guérir ma colère », voilà.
Mais comme peut-être aussi, et ça Peter pourra en témoigner, je ne suis pas quelqu'un de très colérique dans la vie. J'ai l'impression que par la...
Vous êtes doux tous les deux, vous êtes très doux.
Pas que, mais par la musique et surtout par la scène, moi qui suis relativement réservée dans la vie, c'est le moyen, mon moyen d'expression. Donc par la scène, par la musique, j'ose des choses que je n'ose pas dans la vie et peut-être j'ose aussi parler de colère et de sentiments divers, alors que peut-être dans la vie j'ai plus de pudeur à exprimer toutes ces choses-là.
Alors c'est la première fois que vous écrivez et chantez entièrement en français, puis je crois que vous avez fait savoir que c'était la mise en musique d'Espérance Mathématique, le recueil précédent qui avait pu déclencher quelque chose. Cela dit, l'anglais est toujours présent, même dans votre poésie. Si je prends les premiers poèmes, on boit dans le premier, on boit un Purple Fire, on fume une Marigold et puis on croise un Freddy Boy. On verra tout à l'heure de qui il s'agit, de ce Freddy Boy. Votre culture musicale et littéraire, elle s'est faite plutôt en anglais, Marie Modiano ?
Musicale, mais pas littéraire, puisque
Vous n'avez pas intérêt.
Elle s'est fait bien sûr avec des auteurs anglo-saxons, mais j'ai aussi beaucoup lu de littérature classique française et de poètes romantiques français. Donc moi, je suis très imprégnée aussi de littérature française. Pour la musique française, je dirais que c'est plus la chanson française peut-être d'un autre temps, ou vraiment les classiques Charles Trenet, tout ça, ça, j'ai toujours beaucoup aimé Jacques Brel. J'ai moins écouté de rock ou de pop en français. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parlait moins. Et c'était plutôt, en effet, la musique anglo-saxonne, enfin, que j'écoutais avec ma mère, la musique des années 60. Les Beatles, beaucoup de soul aussi, de soul musique. Mais ça, c'est mes premiers souvenirs musicaux. Stevie Wonder. Et Sacha, on se dispute sur Stevie Wonder. Peter est très injuste avec Stevie Wonder.
Qu'est-ce que vous reprochez à Stevie Wonder, Peter Van Pelle? Il va falloir vous justifier, là.
Justement, la bataille de l'harmonica, peut-être.
Ah.
Et après, c'est un peu plus, je dis souvent ça, c'est un peu plus tard, vers l'âge de 14-15 ans, que j'ai commencé à aller vers mes propres goûts, enfin découvrir des choses par moi-même. Et c'était plutôt, ça s'est tourné vers le jazz, donc plutôt de la musique sans paroles. Et j'ai beaucoup écouté du jazz à partir de 15 ans.
Bon, on va vous écouter, vous, dans les studios de France Culture, puisque vous êtes venu avec aussi Sébastien Grand-Gambe, qui sera au violoncelle, et puis Peter Van Pelle à la guitare. Et vous, Marie Modiano, vous serez alternativement au piano et puis juste au chant. Nos rêves, suivis de pauvres chansons.
L'espoir, où qu'ils vivent, s'écrira la même fin, et dans l'aube chétive, nos rêves s'en vont de loin. Quand bien même l'ivresse vient nous tendre la main, funambule en détresse qui s'égare sur le chemin, la grande unité déjà se blesse contre un monde en déclin. Les anges passent, disparaissent, oublient ceux dans le besoin, et sans une promesse, nos rêves s'en vont de loin. Les nuages cachent souvent l'horizon, mais se dissipent quand la tempête, quand l'éclair frappe, sans crier gare et sans raison. De grâce et de sourire. Caprice du monde, quand donc vous tairez-vous? J'ai laissé trois enfants près de la grotte brune. Des bosses poussaient déjà sur les trois petits dos. J'ai toujours été lâche, je n'ai pas voulu voir. Laissez-nous creuser notre tombe, mourir au fin fond de vos nuits. Nous nous souviendrons de vos mains, de vos yeux. Nous pleurerons vos rires en caressant demain. Avant Marc, prépartez, sortons du souterrain. Nos âmes déchirées chanteront le même refrain. La bête courbe l'échine sans tomber, prépare son coup de poing, qu'on libère les condamnés, les damnés du quotidien. Tourne le sablier, nos rêves reviendront bien.
Séchées, on chante à l'unisson nos rêves.
Marie Modiano sur France Culture, accompagnée de Peter Von Peul à la guitare et Sébastien Grandgambe au violoncelle. Vous pourrez les entendre, et puis il y aura même des percussions en plus. Vous serez en concert, Marie Modiano, à l'Arsenal, à Metz, ce sera le 15 avril, et puis le 16 mai au Café de la Danse, ça c'est à Paris. Le disque Pauvre Chanson est édité chez Nest and Sound. Nest and Sound, ça veut dire le nid et le son. Pauvre chanson, comment est-ce qu'il faut comprendre ce titre dont certains ont pu souligner qu'il pouvait rebuter ? Moi, je le trouve très beau, ce titre. On chante à l'unisson nos rêves déclinés. Pauvre chanson.
Je veux pas paraître prétentieuse, mais moi aussi, je le trouve très beau, ce titre. Et je trouvais ça vraiment injuste. Pour moi, pauvre, c'était... Je trouve que c'est une lecture un peu premier degré, pauvre chanson, ah ça dégoûte, non.
C'est pauvre, pas pour fille.
Hein. C'est pas, voilà. Pauvre chanson, au contraire, pour moi c'était quelque chose de poétique et de rempli d'espoir. Je parle souvent à propos de cet album de d'Arte Povera, c'est-à-dire l'idée que une chanson ait vu aussi le contexte actuel un peu étrange de l'industrie de la musique, ben en fait, nous, les musiciens, quoi qu'il arrive, on continuera avec notre pauvre chanson, notre belle chanson, et on pourra chanter, bon, si on a la chance, avec une guitare et un piano, mais même a cappella, on s'en sortira. Donc, pauvre chanson, c'est la chanson éternelle, la chanson qui continuera.
Vu de l'extérieur, Marie Modiano, vous êtes une chanteuse devenue écrivaine, puisque le premier roman, Lointain, s'est paru l'année dernière, il y avait eu des poésies.
Deuxième roman,
il y avait eu de la poésie aussi, mais on vous avait découvert d'abord comme chanteuse avec I'm Not a Rose. Est-ce que, comme Yves Simon, qu'on entendait au tout début, ça a été pour l'écriture de la chanson, dont certains pourraient penser qu'elle est plus simple, puisque c'est une forme courte, ça vous a aidé pour l'écriture romanesque, dont on pense qu'elle est plus difficile, parce que c'est plus long, parce que voilà.
Je pense en effet que ça a dû m'aider parce que j'ai écrit beaucoup, beaucoup de chansons pendant plusieurs années. Peut-être ça m'a aidé dans le sens où ça m'a donné une certaine discipline parce que je me forçais à tout le temps écrire de nouvelles chansons, des nouvelles chansons, des chansons pour les autres, des chansons pour moi. Et donc il faut être assez discipliné et l'écriture d'un livre, d'un roman par exemple, en effet, comme il faut tenir le souffle sur la durée, il faut être assez discipliné dans ce sens-là. Je pense que la musique m'a aidé à aller vers d'autres projets.
Alors avec Peter Von Peul, vous avez collaboré sur plusieurs albums, pour des musiques de films et puis même pour des spectacles vivants. Je me souviens de Sur les chemins de Patti Smith. Peter Von Peul, vous n'êtes pas non plus complètement étranger à la littérature française, puisque quand on vous a découvert, c'était au sein du groupe AS Dragon et vous avez accompagné un temps Michel Houellebecq sur scène. C'était Présence humaine en 2000.
Oui.
Quel souvenir vous gardez de cette collaboration avec Michel Houellebecq ?
C'est vrai que c'était mon tout premier, disons, gig en France, ce disque avec Michel Houellebecq. La vérité, c'est que je parlais pas un mot français à l'époque. Du coup, c'était parfois un peu sur scène, un peu des moments un peu épiques, parce que moi, j'écrivais en gros les certains mots clés sur la scène pour les repérer, du coup, pour donner un signe aux autres musiciens à passer à la partie suivante de la chanson. Et le problème, c'était que souvent, Michel oubliait son texte, ou il ne lui disait pas dans l'ordre qu'il fallait, et du coup, moi, je restais stoïquement sur le même accord jusqu'à que les mots clés, par exemple, une chanson, c'était Panini Saumon. Donc, j'attendais le Panini Saumon pour changer d'accord.
Et puis il y avait un débat en plus au début entre son éditeur Bertrand Burgala pour savoir s'il fallait que Michel Houellebecq essaie un petit peu de chanter ou si au contraire il fasse vraiment uniquement une sorte de spoken word, c'est-à-dire
oui.
qu'il dise...
Oui, tout à fait, oui. Il appelait ça du rap mou. C'était...
C'est pas mal comme expression, je vais m'en resservir, du rap mou.
Alors les questions sur la chanson, on se les pose depuis très longtemps, mais surtout depuis que la musique est enregistrée. Je voudrais vous faire entendre Colette Mani, c'était sur France Culture en 1970.
Enfin, il me semble qu'on appelle chanson quelque chose qui ne fatigue pas l'oreille de l'auditeur plus de 2 minutes, paraît-il, m'avait dit Madame Mireille, qui a des couplets, des refrains, qui tourneront, enfin, qui peut être siffloté par l'homme de la rue, qui soi-disant... a besoin qu'on lui répète la même phrase 100 000 fois. C'est dans cette mesure que... Enfin, je n'ai pas une méfiance, j'en ferai certainement encore, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est de la fabrication je sais pas, comme fabriquer des boîtes de petits pois, enfin j'en sais rien. Même si c'est très bien fait et beau, enfin, moi ça m'intéresse plus. Simplement j'ai envie de faire un autre travail. Dans des lignes musique contemporaine ou free jazz. Il peut m'arriver d'avoir envie, dans un mois, de me faire accompagner par un accordéon et de chanter une grosse valse. Tu vois, je veux dire, ça dépend de ce qui se passe. Mais, hélas, c'est pas ça. Ou c'est édulcoré, des gnangnanteries à la con. T'as sûrement aimé quelqu'un, hein? Et moi aussi. Eh ben, quand on s'aime et qu'on essaie de s'aimer, ou qu'on s'aime pas, ou qu'on se déteste, c'est violent. L'amour, c'est pas un sentiment, gnangnantant. Et alors, si ça déborde dans l'autre sens, d'agression, de fausse nudité, de simulacre de faire l'amour, etc., sur scène, je trouve ça tout aussi con.
On sent la méfiance de Colette Mani à deux égards. Un, le format, ou en tout cas la contrainte de la chanson, qui peut-être à un moment risque de moins l'intéresser. Donc, elle aimerait peut-être s'aventurer vers d'autres choses, comme le free jazz. Et puis, d'autre part, ce qu'on raconte risque d'être édulcoré, gnangnan, ou alors de passer du côté de la fausse crudité. De quoi est-ce que vous vous méfiez le plus, Marie Modiano?
Je dirais pas que je suis entièrement d'accord avec Colette Mani, je suis un peu plus indulgente pour le format chanson, et une chanson peut parler d'amour mais être profonde, donc je suis pas tout à fait d'accord avec elle. Je pense qu'on peut essayer de parler de sentiments et profonds qui soi-disant sont édulcorés, mais avec profondeur, et on n'est pas obligé d'aller s'aventurer dans la musique contemporaine pour faire des choses soi-disant respectables.
Il y a une chanson qui ressort véritablement dans ce disque, je trouve, et qui d'ailleurs se trouve au milieu du disque, c'est Impasse des oubliés. Je donne quelques vers, hein. Oh mon ami héros des ombres, toi qui me souris. C'est une élégie d'une certaine façon, Marie Modiano?
Je suis contente que vous ayez remarqué cette chanson-là, parce que c'est aussi une de nos préférées. Alors aussi, on avait l'idée, enfin moi quand j'ai écrit cette chanson, j'avais l'idée un peu d'une danse macabre, quelque chose d'étrange, et justement, si on en revient à ce que disait Colette Mani, quelque chose d'assez trouble et pas forcément agréable, et grâce aux orchestrations, ça en fait un objet un peu étrange, un peu joyeux, mais avec ce côté macabre.
Vous aviez commencé, je le disais tout à l'heure en préambule, du côté du théâtre, comme comédienne.
Très brièvement, pas... quand j'étais...
Quand même un peu, la Royal Academy de Londres, c'est
oui,
pas mal.
Oui, mais après j'ai travaillé juste... en fait, j'ai fait une pièce de théâtre à 19 ans, et je me suis rendu compte, et ça j'étais assez contente très vite, que je pensais que c'était pas vraiment mon chemin, et j'avais besoin de faire moi-même... d'écrire mes propres textes, et que c'était pas tout à fait la profession pour moi. J'ai lu beaucoup aussi d'auteurs du 19e. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que la littérature, un peu comme la peinture d'ailleurs, a commencé dans les années 60 et tout. Mais moi, je suis assez, dans ce sens-là, je suis assez classique. Tout m'intéresse, aussi bien les auteurs d'aujourd'hui que les auteurs d'il y a 500 ans, et je pense que c'est important quand même pour moi c'était important de même pour la musique, d'avoir quand même une certaine connaissance des choses classiques, même quand on fait de la musique soi-disant populaire, c'est intéressant de remonter loin.
J'en reviens au livre Pauvres chansons et autres poèmes, Marie Modiano. Il y a 4 poèmes à Blaise Cendrars. Blaise Cendrars, c'est vraiment un pseudonyme magnifique. C'était celui de Frédéric Louis Saussaire, que vous appelez du coup Freddy Boy. Parce que vous êtes né le même jour.
Non, mais parce que le hasard fait que sur mon premier roman aussi, disons, un des personnages principaux s'appelait Freddy, mais ça, je... Et puis c'est mon éditeur qui m'a fait remarquer au départ, il disait, t'es sûr que tu veux qu'il s'appelle Freddy? Et je dis, oui, je veux. Et puis en fait, ce nom-là, Freddy, ça m'a suivi dans, que ce soit dans ce premier roman, dans des chansons. Et puis après, je me suis rendu compte que Blaise Cendrars s'appelait Freddy, en fait. Et puis qu'il était né aussi le 1er septembre. Donc j'ai toujours...
89 ans d'écart, quand même.
C'est juste il est un tout petit peu plus âgé. Non, mais j'ai toujours, beaucoup... Dès que je l'ai découvert, ça m'a bouleversé. Donc, je voulais juste, chose que je fais pas souvent, mais lui rendre une forme d'hommage dans ce livre.
Je fais des poèmes pour Bibi que je me récite, dont je m'enivre, que je déguste et dont je jouis. Mais je n'éprouve aucun besoin de les communiquer à qui que ce soit. Même pas à des gens que j'aime beaucoup. Je ne les écris pas. Je ne les écris pas. Il est tellement agréable de rêvasser autour d'une chose. L'ennui, c'est le travail matériel. Je reviens toujours là-dessus, tellement ça me dégoûte. Tellement c'est contraire à ma nature et à mon tempérament. Imaginer un roman. Trouver un sujet. Créer des personnages autour de ce sujet. Les faire évoluer devant soi et les mêler à toute espèce d'aventure. Tout ça, c'est amusant. Mais le jour où on va matérialiser tout ça en noir sur blanc, sur du papier, je commence à souffrir. Et réellement, réellement, en toute sincérité, on a peu de satisfaction devant sa page à écrire. On a très peu de satisfaction et tout à fait, pour moi, tout au moins exceptionnel, me dire ça, mon petit Blaise, c'est pas mal torché, c'est même très bien. Vous se satisfaites-là, on se l'accorde bien, bien, bien rarement. On voit surtout, quand on publie un livre, tout ce qu'on n'a pas mis dedans, qu'on avait envie d'y mettre. Tellement difficile de cerner les choses avec l'écriture et avec des mots, qu'on reste déçu.
En bourlinguant avec Blaise Cendrars, c'était en 1950 sur la chaîne nationale. Alors on apprend plusieurs choses. Il écrivait des poèmes juste pour lui. Il a écrit beaucoup et qu'il a publié, heureusement, notamment « Les Pâques à New York » ou la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. Mais le moment d'écrire, c'est difficile, même pour lui, peu satisfaisant et on reste même déçu. C'est votre cas, Marie Modiano ?
Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je le dis tout le temps, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis chanteuse, musicienne et que autant j'ai énormément de plaisir dans la musique, que ce soit quand j'écris une chanson, après de travailler avec Peter en plus, avec les autres musiciens, l'enregistrement, la scène. Mais l'écriture, en effet, dans ce sens-là, c'est le rêve rêvassé à ce qu'on pourrait raconter. Ou à chaque fois, je dis d'ailleurs à Peter qui se moque de moi que quand je suis comme ça, soi-disant en train de dormir, je suis en train de travailler en fait, parce que je rêvasse. Mais c'est vrai que ça m'a toujours interpellé les gens qui sont heureux quand ils écrivent. Enfin, je pense que peut-être en effet quand c'est un mystère pour moi. Alors peut-être que c'est des gens qui aiment se relire, mais je pense que c'est un métier que je connais bien puisque j'ai grandi auprès d'un écrivain très difficile, probablement le métier artistique le plus difficile et en plus solitaire.
Vous signez tous vos textes, Marie Modiano, sauf la dernière chanson, qui est signée de votre père, Patrick Modiano. C'est pas la première fois qu'il écrit des chansons. Il avait écrit « Tenez-moi Benoît », il avait travaillé avec Hugues Ducourson. Mais là, il écrit « Le chien noir du chagrin ». C'est la dernière chanson avec un texte très modianesque. « Après tout ce temps, tu as oublié le nom de la rue ». C'est déjà tout un programme. C'est une chanson qui vous a adressé ou que vous lui avez commandé ?
Mais on avait dit plusieurs fois, tiens, on devrait écrire des chansons ensemble, comme ça, mais sans que c'était un peu en l'air. Et puis finalement, on s'est retrouvés, puis il avait écrit plusieurs textes, et j'en ai mis en musique quelques-uns. Puis je trouvais terminer l'album avec cette chanson, c'était une très belle manière de mettre un point final. Et surtout, son texte m'a inspiré la musique. Et donc, j'étais contente de cette collaboration. Et j'ai souvent tendance à dire que, comme avec Peter, ou comme avec ma sœur pour la pièce, ou avec ma mère, on a fait un livre, on a écrit des paroles de chansons. Pour moi, c'est une manière d'être encore plus avec les gens, de travailler avec eux.
France Culture.
Continent Musique.
Mathieu Conquet.
La situation de chanteur et écrivain reconnu sur les deux plans, elle est quand même relativement assez rare. On pourrait citer Patti Smith ou Leonard Cohen du côté des États-Unis. En France, on pense aussi bien sûr à Brigitte Fontaine qui publiait récemment L'Onyx Rose chez Flammarion, mais surtout aussi à Yves Simon, Au Pays des Merveilles de Juliette, auteur aussi du roman La Dérive des Sentiments qui avait eu le prix Médicis en 91. Je vous propose, Marie Modiano, une promenade dans Paris, mais du côté de la place Dauphine. Vous voyez où c'est sur l'île de la Cité. L'écrivain et chanteur Yves Simon nous a reçus chez lui pour parler de ses chansons au travers des autres, comme dans ce recueil « Générations éperdues » qui sortira le 24 avril chez Because Music. Et on commence évidemment par un « Diabolomante ».
Dans tes classes de lycée, y a tes rêves.
Simon, on vient d'entendre votre Diabolomante, interprétée par Stéphanie Sokolowski, alias Soko. C'est une des pistes d'entrée possibles dans ce disque Générations éperdues. Alors, le pluriel, les S pluriels sont entre parenthèses. Un disque qui sortira en avril, où on entend Christine and the Queens, Clou, Juliette Armanet, ou encore Radio Elvis, reprendre vos chansons, Yves Simon. Quel est pour vous l'effet d'un tel disque hommage? J'imagine qu'il y a quelque chose de l'effet de miroir, de la source de renouvellement, et puis peut-être un petit peu d'orgueil aussi à se voir chanter ou, comme vous le dites, réenchanter par une génération nouvelle.
Oui, c'est pas tout à fait ça. Enfin, c'est plus divers que ça. Et, l'orgueil, je crois pas trop. L'émotion. Alors, par exemple, quand j'entends une petite nana, Clou, qui a 25 ans, ou je ne sais plus combien, qui a l'âge que j'avais quand j'ai écrit « Les Gauloises Bleues », 50 ans plus tard, ça me touche un peu quand même. Je retiens mon émotion la première fois que je l'écoute, quoi. Je suis très attendri.
On fumait les Gauloises Bleues, qu'on coupait souvent en deux. Les beaux jours, les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons. Voici les fleurs du mal poussaient encore en cette saison.
Par exemple, quand Christine and the Queens reprend Amazoniac, et c'était pas une surprise parce qu'elle m'avait déjà envoyé, avant qu'il y ait même l'idée du tribute, elle m'avait envoyé cette version, et c'était une maquette, mais c'est pratiquement la même version que la définitive qu'il y a sur le disque qu'on vient de sortir. Soko, c'est assez drôle. En plus, il y a Sean Lennon qui joue une partition de guitare dans Diabolomante. Et Soko, elle, je l'avais repérée dans un YouTube. Elle chantait déjà Diabolomante depuis Los Angeles, disait-elle, et toute seule à la guitare. J'ai voulu qu'elle reste dans cette version, mais bon, elle a voulu faire autrement. Ben, c'est très bien que chacun fasse ce qu'il veuille. Puis les autres, c'est venu petit à petit. Alors, il y en a que je ne connaissais pas. Je dois l'avouer, bien sûr, on a pris exprès une génération entre 20 et 30 ans. Donc c'était à la fois limité, mais c'était aussi s'exposer à l'anonymat de la plupart de certains. Certains étaient déjà très connus dans le métier, mais pas du grand public. Et puis ceux qui sont les plus connus, c'est effectivement Christine dont je viens de parler, Juliette Armanet, tout ça émerge en même temps que la sortie de mon disque, quoi. C'est pas grâce à lui, hein. Ils émergent tout seuls, mais avec le temps, on a commencé ce disque, on a mis plus d'un an à réunir les gens qu'on voulait, parce qu'il y a eu aussi les versions qu'on a jetées. Oui, forcément, ouais. Je vous dirai pas lesquelles, parce que quand je dis jeter, c'est un peu ou violent, c'était trop éloigné quand même de... Il y a des fois quand c'est très éloigné, par exemple, il y a une chanson, Macadam à quatre voix, Alors lui, j'ai trouvé qu'il était assez formidable parce que on reconnaît pas du tout la chanson, mais il y a un tel travail et une telle inventivité de sa part que j'ai trouvé ça formidable.
Flavien Berger qui transpose justement votre Macadam à quatre voix, il le transpose vraiment dans un autre univers puisque votre interprétation Yves Simon, elle tirait plutôt du côté de l'Amérique hein, oui. dans l'orchestration, et lui il la ramène à quelque chose de beaucoup plus synthétique et japonais puisqu'on y entend des dialogues. Je ne sais pas si vous a dit d'ailleurs ce que c'était que cette voix féminine japonaise qu'on entend.
Non, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone parce qu'il habite Bruxelles. Hein, alors donc, c'était pas facile de se rencontrer, mais il va venir pour la sortie de l'album. Et j'ai oublié de lui demander justement cette voix. Ça me semble pas, moi qui connais bien le Japon, j'ai été une trentaine de fois, ça me semble pas être japonais, ça me semble plutôt une langue style slave, quelque chose comme ça. Ça me semble pas être japonais, mais il y a une petite voix comme ça que, effectivement, je trouve très, très attachante même. Ouais.
Yves Simon, votre intérêt pour le Japon, puisque vous en parlez, il a commencé par quoi ? Est-ce que c'est peut-être par le cinéma, puisqu'on connaît votre cinéphilie, ou par sa littérature, et je pense notamment à la poésie et à l'art du haïku ?
C'est tout ça mélangé, mais mon souci du Japon est venu de mon premier voyage au Japon qui a eu lieu en 1977 où je devais faire une tournée, c'est-à-dire c'était ma première tournée japonaise, les disques étaient sortis, j'avais pas encore de livres traduits à ce moment-là et le coup de foudre a été très net, y compris pour mes musiciens aussi, on a eu un coup de foudre. On s'est dit, on est vraiment à pas cher, déjà que le voyage était payé par le tourneur, mais à pas cher, on est sur une autre planète, quoi. Je recommande à tout le monde d'y aller, parce que pour peu cher, justement, surtout aujourd'hui, avec les low cost, on est vraiment dans un autre univers graphique. L'écriture déjà, donc ça veut dire les publicités dans les rues, tout ça étant, il y a trois écritures hein, au Japon, mais je vais pas m'étendre là-dessus parce que il y a une politesse, les femmes peuvent sortir à 5h du matin dans les rues un peu saoul en sortant d'une boîte et il leur arrivera rien quoi, c'est un pays très sécure, mais je crois même le plus sécure du monde c'est Tokyo, oui c'est le Japon. Et donc première tournée et c'était le coup de foudre. Et alors que jusque-là, j'allais en Amérique, aux États-Unis, donc que j'avais déjà traversé en stop. Ensuite, j'y suis allé plusieurs fois dans des moyens plus confortables. Los Angeles, New York, tout ça. J'ai connu tout l'itinéraire, les 5000 kilomètres en autostop et puis ensuite en avion. Et pas du jour au lendemain, mais du jour où j'ai traversé, fait des concerts au Japon, que j'ai été traduit, où je suis revenu, donc je vous l'ai dit, 35 voyages que j'ai fait là-bas, c'était un coup de foudre et donc tout le reste du temps, j'allais au Japon et plus aux États-Unis.
Générations éperdues, Yves Simon, c'était aussi le titre d'un recueil de vos chansons, 140 chansons illustrées qui retraçaient plus de 50 ans de carrière, ce qui rassemblait ces textes, cela donne à voir une œuvre, mais ces chansons Yves Simon, elles sont pas destinées à être lues, si ?
Les deux, mon général, je crois. J'avais envie, puisque j'écris les romans, avec donc une maison d'édition qui m'a demandé à la fois d'écrire une autobio qui sortira dans un an à peu près. Et c'est moi qui l'aurais dit, mais ça vous dirait pas de publier aussi. C'était un peu un deal. J'ai un peu fait un acte de force. Enfin, deal entre une autobio et mais vous publiez les chansons. Ben, j'avais envie parce que Gainsbourg, j'ai des livres de Gainsbourg, de ses chansons uniquement. Comme il n'a pas écrit de roman, sinon Evgeny Sokolov. Oui. Ça me faisait plaisir. Là, vous avez parlé tout au début d'orgueil. Par orgueil, ça me faisait assez plaisir qu'elle soit éditée. Oui.
Je vous pose la question parce que Bob Dylan, quand il a envoyé son discours à l'Académie Nobel pour recevoir le prix Nobel de littérature qui lui était donné, il disait « Je me suis demandé quels étaient précisément les liens entre mes chansons et la littérature. » Et c'était un long texte, hein, ça durait plus de 20 minutes. Et ça terminait ainsi. « Et les chansons doivent être vivantes dans le monde des vivants. » Là, je pense que tout le monde est d'accord. « Les chansons ne sont pas comme la littérature. Elles doivent être chantées et non lues. Les mots de Shakespeare doivent résonner sur une scène comme les paroles d'une chanson. »
Oui, mais il s'autocritique guère, puisqu'il y a au moins 20 ans que sont sortis ses 10 premiers albums, comment je veux dire, en libre, en texte, avec quelques dessins de lui. Je me dis, c'est quand même pas mal, c'est un peu la classe de se trouver. Puis il a écrit quand même un livre qui s'appelle Tarantula, si j'ai bonne mémoire. C'est ce que je dirais si j'avais le prix Nobel, quoi, que les chansons. Ce que j'ai trouvé bizarre, moi j'ai adoré que Dylan ait le prix Nobel de littérature. En revanche, je me dis c'est très injuste parce qu'il ne peut y avoir comme chanteur ayant le prix Nobel qu'un chanteur anglo-saxon, puisque la plupart des chanteurs du monde, que ce soit français, allemand, italien, japonais, ne sont jamais traduits ni en norvégien ni en suédois. Donc c'est un peu injuste. Voilà, j'ai trouvé que ça d'injuste. C'est-à-dire, je ne l'aurai jamais ce prix Nobel, en chanson en tout cas.
Ce qui est un peu injuste aussi, c'est que lui donner un prix de littérature, c'est oublier que ce qu'il fait, c'est autre chose que de la littérature. Oui. C'est très difficile d'écrire avec des sons, avec la concision qu'impose la chanson. Au fond, c'est vraiment un autre art.
Vous m'auriez posé la question directement, je vous aurais dit ça n'a rien à voir. Parce que on croit, parce que le livre est plus prestigieux que la chanson, on croit toujours que c'est plus facile d'écrire une chanson que d'écrire un livre, parce que c'est long, un livre, c'est 250 pages, 300 pages, 500 pages, tandis qu'une chanson, c'est 20 lignes. Mais c'est très, très, très difficile d'écrire une chanson, parce que justement, il y a ce raccourci des mots, ce raccourci du temps, c'est 2 minutes 30, c'est 3 minutes, c'est 4 minutes. Un livre, on met au minimum 2 heures pour le lire, pareil pour l'écriture, écrire une chanson. Moi, je n'écrivais que quand la chanson était déjà finie dans ma tête, quoi. Donc, en 5 minutes, au pays des merveilles de Juliette ou Diabolomante, j'ai écrit ça très vite et je suis très défaitiste. C'est-à-dire, quand je n'arrive pas à écrire plus de 2 lignes dans les secondes qui suivent la musique que je viens de composer, j'abandonne. Alors que Brassens, quand il tenait une chanson, il la tenait 1 an pour la fignoler, et pour avancer dans son texte. On était, oui, très différents, amis, puisqu'on s'est, j'ai fait sa première partie à Bobino une fois, une année. C'est un bonheur. C'est une parenthèse que je fais là de rencontrer Brassens un jour dans sa vie et de pouvoir l'embrasser tous les soirs pendant 3 semaines dans les coulisses de Bobino, quoi. Mais voilà. Donc, je pense que j'ai plus appris à la chanson pour écrire de romans que le contraire. C'est très difficile. C'est-à-dire, faut vraiment que ce soit des mots qui chantent déjà. C'est pas n'importe quel mot qu'on peut mettre qui va avec de la musique. C'est très difficile. Donc, il faut que ce soit le mot juste chantant. Et je crois que j'ai gardé quand même cette manie en écrivant les romans pour trouver le mot chantant, je répète, juste. Voilà. Donc, ça, c'est dans les romans.
Des mots doux pour ta peau. Remémore tous tes reins. J'enrobe ta peau de mots crus, de mots forts. Je masculine pour ancrer dans ton corps.
Les mots doux, Yves Simon, c'était dans l'album « Demain, je t'aime » qui était paru en 79. On écrit toujours pour quelqu'un, Yves Simon ?
Non, je crois pas. Je crois que j'écrivais pour ce qu'on pourrait appeler, j'aime bien le mot « la foule ». Il y a « foule sentimentale » de Souchon ou « la foule » d'Édith Piaf. J'aime bien cette idée de foule où... Il n'y a pas d'individus dans la foule, on les voit pas. Je veux dire, quand on regarde une foule de l'extérieur, il n'y a plus d'individus, c'est une foule. J'aime bien les foules, j'ai bien aimé faire des manifs, j'aime bien aimé les nombreux spectateurs quand je fais l'Olympia ou un truc comme ça, quand il y a 3000 personnes. Je suis plus à l'aise devant 3000 personnes que devant 30. Hein. Je serais incapable de faire un concert devant 30 personnes, à part en intimité pour faire plaisir à des amis, déjà pour des anniversaires, j'ai fait devant une dizaine de personnes des mini-concerts à la guitare de 6-7 chansons, quoi. Mais 3000 personnes, j'aime bien. À Tokyo, pour fêter, c'est pas le mot, célébrer plutôt l'anniversaire d'Hiroshima, j'y suis allé en 82, je crois, 83, et il y avait 20 000 personnes, c'était en extérieur, il faisait très beau, c'est dans le sud du Japon, donc c'était l'été, et puis il y a eu un jour 350 000 personnes, alors ça c'était quelque chose, c'était le dernier grand concert d'SOS Racisme à Vincennes, et alors là il y a toute l'histoire de la chanson française qui est encore là. Devant moi passait Barbara, je passais ensuite Indochine et à un moment Bruce Springsteen. Donc c'était très très éclectique, c'était formidable parce que c'est important la foule. On en parlait, c'était ça le sujet. La foule, c'est beau une foule sentimentale, je rajoute, guillemets.
Pour cette génération de musiciens et de chanteurs qui reprennent vos chansons, je pense notamment à Woodkid ou Christine and the Queens, chanter en français ou passer des messages en français, ça n'a pas toujours été une évidence. Comment est-ce que vous avez compris ce mouvement qui est apparu plutôt dans les années 90 de chanteurs qui ne s'exprimaient plus en français ? Maintenant, une bonne partie de la génération qui vous reprend réinvestit la langue française. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Comment vous avez compris ça, cette distance avec cette difficulté, comme s'il y avait un poids, peut-être de la littérature, qui pesait sur l'expression en français?
Ça vient de l'accent tonique, souvent, et évidemment du son de la langue. C'est plus facile de chanter... globalement comme ça, l'anglais s'y prête bien parce qu'il y a des sonorités qui vont bien. L'allemand, c'est plus difficile. J'ai été, par exemple, Diabolomand existe en allemand, on a du mal à reconnaître, quoi. C'est difficile. Par exemple, il y a des langues très qui se prêtent à la chanson, le japonais qui ressemble un peu à l'italien, enfin en sonorité il y a beaucoup de i. Je crois que ça vient de l'accent tonique quand la révolution a imposé l'accent tonique pour unifier la langue française sur le premier temps, quoi. Alors que dans d'autres langues, c'est sur l'avant-dernière syllabe en italien, par exemple, ou sur la dernière syllabe du mot. Donc il y a une différence. Et puis, il y a un truc très important pour la musique rock où la basse est très en avant. Donc elle prend beaucoup de place dans l'espace sonore. Et les Anglais chantent beaucoup du nez. C'est nasal, la langue anglaise. Ils chantent, on les entend bien et on entend la basse. Tandis que si on veut faire la même chose en français, c'est-à-dire une basse assez forte et chanter normalement comme on est en train de parler, il faut faire un choix. C'est-à-dire c'est la basse ou la voix. Donc c'est pour ça qu'elle se prête bien au rock'n'roll, la langue anglaise, oui. Et alors, je reviens à votre question. Moi, j'ai toujours voulu chanter, même quand j'ai chanté dans les pays anglo-saxons ou au Japon, je veux dire, j'ai chanté dans ma langue, voilà, partout. en Turquie, partout où j'ai chanté, même au Brésil, j'ai chanté dans ma langue, c'est-à-dire le français. Et aujourd'hui, effectivement, et j'en suis assez heureux, bah, tous les chanteurs qui sont dans ce disque, dans ce tribute, ils chantent pour la 90%, leurs propres disques sont en français.
Il est tard, ou il est tôt. Paris, c'est beau, des Maliens au petit matin. Change sa peau, premier jukebox, premier bistrot. Paris, métro, des hommes endormis rêvent sous les néons. D'étoiles de nation. Aux vieux angles des avenues, des boutiques ont été flingués par des banquiers. Paris, fric, la Saint-Michel, un vendeur de bagues gabonais a été pourchassé par des types en civil qu'on avait vus avant parler avec des policiers.
On entend Paris 75, par exemple, interprété par Forever Pavot et le chanteur Lescope. Je reprends vos mots, Yves Simon. Paris, c'est beau, les Maliens au petit matin changent sa peau. Il est question de policiers, d'un avocat algérien victime d'une bavure. Il est question de l'état de la ville, mais aussi de l'état dans la ville. Quel état est-ce que vous voyez dans la ville de Paris aujourd'hui, Yves Simon ?
Je trouve que les Parisiens, quand on visite d'autres capitales, alors il y a plein de comparaisons possibles. Si vous comparez avec Bruxelles qui est à côté, c'était complètement défiguré, Bruxelles. C'est-à-dire les gens ont laissé faire, quoi. Donc on n'a pas ça à Paris. On en a quelques mauvais immeubles, mais il n'y a pas ça au centre. Alors Paris, je ne vois pas le changement puisque j'y habite. C'est tout doux, Paris, c'est tout doux. Il n'y a pas de révolution architecturale.
Comment vous décririez l'endroit de Paris dans lequel vous habitez et qu'on voit ici par la fenêtre ?
Oh, ben c'est simple, c'est le cœur historique et géographique de Paris. C'est-à-dire on est dans le premier arrondissement et c'est chargé d'histoire. Louis XIV, quand il s'est marié, après être passé à Notre-Dame, et en revenant avec l'infante d'Espagne, il est venu faire la fête Place Dauphine. Signoret Montand a habité là. C'est un endroit aussi important où les gens c'est un lieu de rencontre pendant la Révolution, puisque Danton n'habitait pas loin d'ici, à côté du boulevard Saint-Germain. Donc c'est, historiquement, c'est intéressant, quoi. La place Dauphine, telle qu'on la voit aujourd'hui, est née sous Henri IV.
Quelle place avait la musique au moment où vous arrivez à Paris ? J'imagine que vous n'emménagez pas tout de suite dans le premier arrondissement, Yves Simon.
Non, il y a eu un creux. J'ai monté un groupe de rock quand j'avais 15 ans. Et donc on jouait dans les boîtes au casino de Vittel de Contrexéville, puisque j'habitais une ville d'eau. J'ai fait les premières parties de Jacques Brel et de Gilbert Bécaud. Donc j'ai mis le pied à l'étrier en chantant devant des salles où il y avait 1000 personnes à peu près. Donc assez tôt, et la place a changé quand on est devenu étudiant. Tous les musiciens qui jouaient avec moi, les quatre autres musiciens, on a abandonné la guitare électrique pour la guitare acoustique, et c'est comme ça que j'ai fait les chansons. Peut-être je ne serais pas chanteur si je n'avais pas été étudiant, puisque dans les chambres de bonne, il n'était pas question d'amener un ampli et une guitare électrique, ça faisait un peu de bruit. Et donc, ni fille, ni guitare. C'était dur, la vie est dure pour les adolescents. Et j'ai repris à la fois, évidemment, j'ai continué la guitare acoustique quand je suis arrivé à Paris, mais là, j'ai pas chanté, ça me déplaisait. Je vous ai dit que j'aimais pas chanter devant 50 personnes ou 40, donc j'ai pas chanté dans les cabarets. J'ai fait une seule fois une émission de télé dans un cabaret, qui est celui où chantait Barbara. l'écluse. Et j'ai pas fait mes études de chanteur. En revanche, j'ai fait des maisons de jeunes et de la culture, ce qui était, il y en a plus maintenant. C'était centralisé à Paris. J'ai fait une tournée de 20 ou 30 concerts en Bretagne, par exemple. Et c'est une bonne école parce que on est tout seul. J'amenais un projecteur, un ampli, un micro, c'est moi qui l'installais. Et puis alors souvent les maisons de jeunes étaient dans d'anciennes trucs des bâtiments de culture par exemple. Donc par exemple à Logivy-Plougras, qui est un village que vous ne connaissez sûrement pas en Bretagne, c'est dans une ancienne porcherie qu'ils avaient fait la maison des jeunes et de la culture. Chanter dans une porcherie, c'est pas mal quand même. Et je me dis, il faut quand même en vivre des choses. Pour en plus, 5 ou 6 ans plus tard, je passais à l'Olympia. Donc c'est quand même assez court dans la vie, hein, cette distance, 5 ans, c'est rien. Et donc, mes 5 ans avant, je chantais dans une porcherie. Oui, c'est l'Olympia et la porcherie, c'était vite.
Merci Simon de nous avoir reçus chez vous.
Merci, une autre fois.
Voilà pour cet entretien avec Yves Simon. Je rappelle que Générations éperdues sortira le 24 avril chez Because Music. Merci Marie Modiano et Peter Van Peul d'être venus tous les deux jouer dans les studios de France Culture. Quelques airs de pauvres chansons. C'est le disque qui vient de paraître chez Nest & Sound. Et puis le recueil de poèmes est édité, lui, à l'arbalète Gallimard. Continent Musique touche à sa fin. On se quitte avec Junior et la voix d'un agent, Panique.
Ça me fait froid dans le dos, je perds mes moyens, j'ai plus de mots. Quand dans ce grand bain, ce bain de foule, je sens soudain que je coule. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'y peux rien, c'est le physique.
Junior est la voix d'Anna Jean, qui elle n'est autre que la fille de l'écrivain Le Clésio. Elle sera Junior à l'affiche du prochain festival Les Femmes s'en mêlent du 15 mars au 5 avril dans toute la France, hein, Paris, Brest, Dijon, Bordeaux, Ajaccio. Ça c'est pour Les Femmes s'en mêlent. Et si, comme nos invités de ce soir, vous oscillez entre littérature, chansons et autres libertés, le festival Les Émancipés est fait pour vous. Il y aura dans 10 jours pas moins de 8 créations du côté de Vannes et Aradon. Thomas Joly, Raphaël Lanader et Babix, par exemple, seront réunis dans Mon cœur, La Dame en Noir, un hommage à Barbara, ou encore Arnaud Catherine et Florent Marchais pour Sous le Soleil exactement, autour de Jean Cocteau et Raymond Radiguet, le festival Les Émancipés. Ce sera du 21 au 26 mars 2018. Les informations et la programmation musicale sont à retrouver à la page internet de l'émission Continent Musique sur franceculture.fr, ainsi que la réécoute et le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez tout, c'est gratuit. Continent Musique vous est proposé par Mathieu Conquet avec la collaboration de Pascaline Bonnet, à la réalisation Olivier Guérin. À la prise de son ce soir, Pierre Faucillon et Jacques Hubert. Merci à Annie Lozana de l'INA et Antoine Villos de la discothèque de Radio France. Les programmes continuent. Restez en bonne compagnie sur France Culture. Excellente soirée à chacun.